en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Maurice Genevoix de l'Académie française, un jeune auteur à redécouvrir, en quatre émissions proposées par Lucrèce la Chenardière pour Canal Académie. Première émission, ceux de 14, les écrits de guerre de Maurice Genevoix avec Jean-Jacques Becker, historien, et pour la musique, Benjamin Britten, Requiem de guerre. Des noms maintenant illisibles sur les monuments aux morts, mais qui s'intéresse aux monuments aux morts ? Première guerre mondiale, 1914-1918, c'était nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, c'est loin tout ça, à quoi bon se souvenir ? L'indifférence de ceux qui vivent aujourd'hui dans la paix européenne, oui, notre indifférence, est pourtant quelque peu ébranlée par la lecture du volume « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix, réédité chez Omnibus en 1998. Une réédition nécessaire à nos mémoires sans doute, mais aussi à notre connaissance, à notre culture d'Européens tièdes. À la lumière de cette lecture, notre tiédeur, notre indifférence nous semble soudain honteuse. Il a tant fallu, en effet, de sacrifices, de massacres, de tortures ou peut-être de mépris de la vie des individus et des peuples par leur gouvernement, tant et tant d'horreurs pour qu'enfin l'Europe se convertisse à la sagesse. En lisant Maurice Genevoix, monte en nous et malgré nous de la sympathie et du respect pour ces hommes qui nous ont précédés, parce qu'une question se fait jour, et si la paix dans laquelle nous vivons aujourd'hui devait quelque chose à leur vie sacrifiée. Jean-Jacques Becker, combien de morts durant la Première Guerre mondiale pour inaugurer le XXe siècle ?
On ne sait pas exactement combien il y a une mort pour l'ensemble des belligérants. On estime qu'il y a eu environ pas loin de 10 millions de morts.
10 millions ?
10 millions de morts, oui. C'est un peu compliqué de donner un chiffre extrêmement précis pour des raisons tout à fait compréhensibles. Les systèmes statistiques de l'époque n'étaient pas toujours très développés et surtout, à la suite de la guerre, de nombreux États ont à la fois disparu et d'autres créés, ce qui veut dire qu'il est très difficile pour ces États, qui étaient des jeunes États, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, de faire des comptes. En ce qui concerne les grands États, les grands belligérants, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, on connaît très précisément le nombre des morts. Mais
alors pour la France, par exemple
Par exemple, pour la France, cela approche 1 400 000 morts. Mais,
et pour une population à
pour une population qui était inférieure à 40 millions d'habitants à l'époque. Mais il ne faut pas penser que on l'a su pendant la guerre. En ce qui concerne la France, ce sont les travaux d'un député, Louis Marin, qui était professeur de statistique, enfin professeur de droit, mais professeur de statistique également, qui s'est livré après la guerre à un véritable travail de bénédictin pour arriver à connaître le chiffre exact des morts pour la France, avec quelquefois des chiffres totalement extravagants pour un contemporain. Le 22 août 1914, le 22 août, le seul, en cette seule journée, l'armée française a compté 27 000 morts pour le seul 22 août. C'était la façon de combattre l'offensive à outrance, dans n'importe quelles conditions. Ces troupes sont tombées sur des mitrailleuses. D'ailleurs, disons que les pertes allemandes ont été inférieures à ce moment-là. Mais à d'autres moments, par exemple à l'automne 1914, toujours en Flandre, une véritable armée de volontaires allemands a été décimée, en particulier des étudiants de très nombreuses universités qui sont tombés en Flandre. Alors, c'était la conséquence de la façon dont on faisait la guerre. Dans la pensée des états-majors, la guerre serait très rude mais très brève. Oui. Alors, dans ces conditions, il y aurait évidemment des pertes assez lourdes, mais pendant seulement quelques jours, en quelque sorte. Dans la pratique, c'est que
c'est
la guerre n'a pas duré quelques jours.
C'est un peu toujours comme ça. On croit toujours qu'elles vont être brèves, les guerres, et finalement, elles durent.
Oui, c'est un peu toujours comme ça, mais
c'est pas exceptionnel.
C'est particulièrement vrai de la Grande Guerre. Ce n'est pas vrai. Les guerres antérieures avaient été brèves. Les guerres les plus immédiates, si je puis dire, avaient été les guerres balkaniques en 1912 et 1913. Elles avaient duré chaque fois quelques semaines. La guerre de 70-71, eh bien, a duré en gros une année. Non, c'est justement un des éléments les plus importants que cette guerre qui devait être brève a été extrêmement longue. Et que ce n'est que progressivement qu'on s'est rendu compte de sa longueur. Pendant très longtemps, d'un côté comme de l'autre, on était persuadé qu'à la saison prochaine, eh bien, la guerre serait terminée. Alors, quand les soldats sont partis, et c'est une chose que l'on ne doit pas oublier, par exemple, prenons le cas des mobilisés français, eh bien, ils étaient à peu près tous convaincus, ils sont mobilisés donc au début du mois d'août 1914, ils étaient persuadés d'être rentrés pour les vendanges, et pour les pessimistes, mais les pessimistes seulement, d'être rentrés à Noël.
À Noël. Hein?
Alors, il est évident que cette guerre a été totalement différente de ce qui avait été prévu, et on peut dire qu'il faut attendre 1917 pour que qu'on ait vraiment conscience d'être dans une guerre longue. Et alors, à ce moment-là, c'est presque un changement complet. On a l'impression que cette guerre ne finira plus jamais.
Oui, hein, à l'inverse.
Alors que jusqu'alors, elle devait finir au trimestre suivant.
Suivant. Et à lire ceux de 14, nous avons l'impression, avec ces hommes qui sont cloués dans ces tranchées boueuses, d'un quasi-immobilisme, ou bien que les batailles, en fait, se gagnent ou se perdent pour une avancée ou un recul de quelques mètres. Et donc, pour quelle raison impérieuse toute une génération d'hommes a été sacrifiée ?
Oui, alors, c'est tout à fait classique de penser qu'il y a deux périodes dans la Grande Guerre. D'abord, la guerre de mouvement, qui dure du mois d'août à l'automne 1914, et ensuite une guerre de position, progressivement, les armées, tout au moins à l'ouest, à l'est, les problèmes sont différents, les armées s'enterrent l'une en face de l'autre, c'est la guerre des tranchées.
Fontanier a été blessé d'une balle à la tête, légèrement. Raveau a été blessé d'une balle de mitrailleuse au bras, bien touché. Liège, mon sergent, a reçu une balle dans la jambe. Le caporal Comte, une balle dans la jambe aussi. C'est le seul qui n'ait pu descendre car il avait le tibia brisé. Il est resté toute la nuit au creux le plus noir de la galerie, sous les poutres. Et toute la nuit, nous avons entendu sa plainte, chaque fois que les canons laissaient reposer le silence. Nous avons retrouvé le cadavre de Gerbeau, le vieux bidon, le havresac aux taches sanglantes, celui du caporal Lucien, que nous n'avons plus revu. Personne non plus n'a revu le lieutenant Müller. Mais on a retrouvé le cadavre du sous-lieutenant Hirsch, tombé à la renverse, une balle dans la tête et son revolver à la main, exactement comme on avait dit. Combette est blessé, le capitaine Béraud est blessé, mortellement, le sous-lieutenant Rumeur tué. Chaque nouvelle est soudain parmi nous, on ne sait apportée par qui. Maurice Genevoix, ceux de 14, Les Éparges, édition Omnibus, page 594. Jean-Jacques Becker, je ne vous ai pas encore présenté, mais je répare immédiatement cette négligence. Vous êtes donc professeur émérite de Paris 10 Nanterre et président du Centre de recherche de l'Historial de Péronne sur la Grande Guerre. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie. Vous avez rédigé une préface documentée, précise, éclairante pour le volume « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix. Ce volume que nous parcourons maintenant. Mais pour les auditeurs, il serait peut-être nécessaire de décrire la structure de ce volume.
Oui, ce que l'on appelle ceux de 14, c'est en réalité une série d'ouvrages que Maurice Genevoix a publié pendant la guerre même et immédiatement après. Maurice Genevoix était au moment de la déclaration de guerre, était élève de l'école normale supérieure. Alors, sans entrer dans les détails, disons qu'ils avaient fait leur service militaire avant leurs années d'école. Et il avait donc, c'est pourquoi il a le grade de sous-lieutenant. Il faut dire que Maurice Genevoix ne va pas faire la guerre très longtemps. Il commence la guerre à la fin du mois d'août 1914 et il est gravement blessé au printemps 1915, en avril 1915. Et à la suite de ses blessures, il est nécessairement réformé. Donc il a fait la guerre un peu moins d'un an. Et il a fait la guerre en deux endroits. Dans un premier temps, lors de la fin de la guerre de mouvement, il appartient à une armée qui se trouve au nord, en gros au nord de Verdun. Et c'est là où il participe à la guerre de mouvement, d'abord un mouvement de recul, puis un mouvement d'avance à la suite de la bataille de la Marne. Ensuite, son unité est transférée au sud de Verdun, dans ce que l'on appelle le secteur des Éparges. Alors, les Éparges, c'est une sorte de butte qui se trouve au nord de la plaine de Voivre, enfin au nord, qui surmonte, qui domine la plaine de la Voivre, comme on dit à peu près en Lorraine.
Oui, c'est W-O-E-V-R-E.
On aurait tendance à prononcer Voivre, mais en fait, on prononce dans la région, on dit Voivre. Et cette butte, était pour dire quel est le contexte. Quand il pleuvait, et il pleuvait souvent, ça devenait une sorte d'énorme morceau de savon sur lequel il était très difficile de grimper. Alors, mais pourquoi cette bataille qui, une bataille acharnée, c'est une petite bataille de la guerre, une très petite bataille de la guerre, mais une bataille acharnée pour conquérir cette butte des éparges.
Les éparges, c'est également le titre d'un texte de Genevoix réédité par Omnibus dans un gros volume qui comprend tous les récits de guerre de Genevoix. Ils avaient déjà été édités, bien sûr, mais de manière éparpillée. Omnibus les a regroupés dans l'ordre chronologique. Donc, ce volume, intitulé « Ceux de 14 », comprend « Sous Verdun »,« Nuit de guerre »,« La boue »,« Les éparges »,« Jeanne Roblin et la joie », qui sont deux romans de guerre, et pour finir, « La mort de près ».
Le premier tome, « Sous Verdun », en fait, correspond en gros à la guerre dite de mouvement, et les autres tomes correspondent à la bataille des éparges. C'est aux éparges le Genevoix sera le plus longtemps, jusqu'à sa blessure. Alors, il faut comprendre que c'est une guerre très particulière, parce que c'est un point élevé, et que les Allemands voulaient tenir pour voir, et que les Français veulent reconquérir pour voir.
Oui.
Il y a une certaine absurdité dans cette affaire, parce que nous sommes au début de la guerre aérienne, de l'aviation, donc on voyait mieux avec les avions, mais dans la pensée des chefs militaires des deux côtés, il fallait tenir les points hauts. Pour reconquérir les éparges, finalement, disons, sans vouloir dévoiler la suite, que finalement, les éparges resteront moitié aux Allemands, moitié aux Français pendant les 4 ans de guerre. Eh bien, pour reconquérir les éparges, il a fallu faire des efforts extraordinaires. Ce fut une guerre, une bataille terrible, sur ces pentes forestières à l'origine, mais très rapidement
la forêt a été détruite.
Par les bombardements. Même à l'heure actuelle, on se rend compte, hein, quand on va aux éparges, le relief est extrêmement difficile. Alors, eh bien, c'est cela que Maurice Genevoix raconte dans ses différents volumes rassemblés dans ceux de 14.
En fait, dans votre préface, vous mettez aussi en rapport l'œuvre de guerre de Genevoix avec tous les autres ouvrages qui ont été écrits sur cette guerre. Mais qu'est-ce que l'œuvre de Genevoix a de particulier? Vous semblez l'apprécier particulièrement.
Oui,
nous aussi,
je ne suis pas le seul, parce que j'entends par là, tout à l'heure nous parlerons vraisemblablement de Norton Crue.
Oui.
Eh bien, Norton Crue considérait que c'était le livre sur la guerre par excellence.
Par excellence.
Alors, pour qu'un livre sur la guerre soit bon du point de vue de l'intérêt et du point de vue du témoignage, pour l'historien, finalement, si c'est du roman, ça n'a pas grand intérêt. Alors, le problème de Genevoix, c'est qu'il a pris des notes tout au long de son expérience militaire, et c'est avec ces notes qu'il a construit ses ouvrages. Alors, pourquoi sont-ils particulièrement remarquables? Parce que, on a pu le vérifier, il est d'une honnêteté parfaite, c'est-à-dire qu'il n'invente pas. Il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait, ainsi que ses soldats. Et alors, il y a un mélange, en quelque sorte, de notes prises au jour le jour, mais qui sont magnifiées par le talent de l'écrivain. Car il est évident que si vous n'avez pas un talent d'écrivain, un talent d'abord d'observateur, un talent de réflexion, vos notes n'ont pas grand sens.
Alors, et du fait de sa blessure, donc, dès 1916, il a pu retravailler.
C'est un peu cynique de dire cela, mais si Genevois n'avait pas été blessé, il aurait été vraisemblablement tué.
Oui,
et
bien sûr,
son œuvre n'aurait jamais existé.
On n'aurait que des carnets.
Carnets qui seraient probablement, à peu près inutilisables.
Là, en fait, sa blessure lui a sauvé la vie, si on peut être, comme vous dites, aussi cynique.
Absolument. Si.
Mais lui a aussi l'a libéré pour écrire aussi.
Lui a permis de faire son œuvre d'écrivain. Alors. Il y a eu évidemment un très grand nombre d'écrivains qui ont été révélés par la guerre. Beaucoup moins que ceux qui auraient pu l'être, parce que la plupart, évidemment, ont été tués. Mais ceux qui ne l'ont pas été, les œuvres sont souvent remarquables quand on peut avoir la preuve qu'elles n'ont pas été transformées par l'état d'esprit d'après la guerre. À ce moment-là, ce ne sont plus des témoignages. C'est, je ne dirais pas, un point de vue. Alors, et on le voit très facilement lorsqu'il est fait allusion à des événements que, évidemment, les soldats ne pouvaient pas connaître, les combattants ne pouvaient pas connaître. Il y a d'autres livres de très grand talent. Celui qui peut être le plus comparé à ce 14 de Maurice Genevois, c'est Nous autres à Vauquois. Vauquois se trouvait, était aussi une butte, un peu comme les Éparges, mais au nord de Verdun, dont l'auteur est André Pézard. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux étaient normaliens, mais alors que Genevois allait faire une carrière d'écrivain, Alain Pézard, lui, fit une carrière d'universitaire et il termina sa carrière comme professeur au Collège de France. Mais on retrouve la même chose que chez Genevois, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris des notes sans arrêt et qui les utilise avec talent, bien entendu, mais avec honnêteté même temps, qui ne cherche pas à faire une démonstration en fonction d'un moment ultérieur.
Vous semblez penser que l'œuvre de guerre de Maurice Genevois n'a pas eu immédiatement la place qu'elle méritait et que cette place s'est révélée petit à petit grâce à sa qualité, bien sûr, mais aussi grâce au fait que les témoignages personnels sont devenus un matériau pour les historiens, ce qu'ils n'étaient pas auparavant.
Je crois qu'il faut faire un léger retour sur l'historiographie de la Grande Guerre. Dans un premier temps, on s'est intéressé essentiellement aux causes de la guerre, mais on recherchait les causes de la guerre ou les responsabilités de la guerre, les responsables c'était toujours les autres bien entendu, dans les documents diplomatiques, c'était des études en quelque sorte de relations internationales. En même temps, il y a eu toute une historiographie de la guerre, une historiographie militaire. Mais une historiographie militaire dans laquelle les combattants apparaissaient peu. C'était des opérations, en quelque sorte, l'humour.
L'histoire des opérations, des batailles.
Et ce n'est que depuis, maintenant, une bonne trentaine d'années, que l'on a mis au cœur de l'histoire de la Grande Guerre, les hommes qui l'ont faite, les combattants et les civils aussi, les populations civiles qui jouent un très grand rôle. Et alors, dans ces conditions, le témoignage est d'une très grande utilité. Et parmi ces témoins, il y a évidemment beaucoup d'écrivains. Et quand un écrivain a du talent, eh bien, ça donne un ouvrage tout à fait intéressant. Alors, c'est pourquoi Genevois était au fond, dans la période antérieure, plus connu par ses œuvres romanesques, de paix. En quelque sorte,
avec son prix Goncourt, Rabolio,
l'histoire de la Sologne, la vie en Sologne, que par la guerre. Mais à partir du moment où on s'est de nouveau intéressé aux combattants, aux hommes, en quelque sorte, eh bien, il est évident que Genevois revenait au premier plan, ainsi que bien d'autres écrivains, mais il apparaît comme un des meilleurs, vraisemblablement, au moins en France, hein, pour avoir rendu compte de la guerre.
Hein. Certains passages de l'œuvre de Genevoix évoquent des moments de panique. Était-ce bien vu en temps de guerre la description de mouvements de panique ? Il faut rappeler en effet que Souverdin est paru dès 1916. La censure faisait son travail sans doute.
Oui, d'autant plus que la censure en France était beaucoup plus forte que qu'en Allemagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a en France on a toujours des stéréotypes en ce qui concerne l'Allemagne. Elle était évidemment beaucoup plus forte que dans le Royaume-Uni, où par tradition on est de ce point de vue plus libéral. Mais la censure en France était très forte, mais elle était variable suivant les moments, suivant ceux qui la faisaient. Ce qui est sûr, c'est que dans les ouvrages de Genevoix, ceux qui ont été publiés pendant la guerre, eh bien, c'est une des manifestations de son honnêteté et de son objectivité. Il raconte ce qui arrivait très fréquemment au moment de la guerre de mouvement, des paniques. C'est-à-dire que tout d'un coup, des soldats prennent peur et c'est tout un groupe qui s'enfuit.
Ils ne prennent pas peur par hasard non plus, parce qu'à certains moments, on lit des moments tout à fait extrêmes.
Pourquoi ?
Ils n'ont plus de munitions, ils sont sous le feu de l'ennemi.
C'est pas très clair. Oui, ils sont sous le feu de l'adversaire, bien sûr. Mais enfin, il y a des cas exactement semblables où il n'y a pas de panique. Pourquoi il y a des paniques ? C'est des mouvements difficiles à comprendre. Des soldats qui ne font preuve d'une grande fermeté à d'autres moments, et puis là, brusquement, ils sont emportés. Il suffit, je crois que c'est un peu comme une pierre qui roule, hein, en quelque sorte, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient pris de panique pour entraîner les autres. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, c'était pas des récits que l'on souhaitait qu'ils soient faits. Et c'est pourquoi la censure a enlevé, dans les ouvrages qui sont parus pendant la guerre, a enlevé ces récits de panique. Il n'était pas convenable de dire que des soldats pouvaient être pris de panique. Et ils ont été rétablis dans les éditions ultérieures. Mais alors, il y a, de ce point de vue, un phénomène tout à fait curieux. C'est-à-dire que dans les éditions ultérieures, dans un premier temps, c'est Genevoix qui s'était lui-même censuré, non pas à propos de panique, mais à propos d'un épisode de guerre, hein, où c'était là des soldats allemands qui s'enfuyaient, poursuivis par des soldats français, et Genevoix raconte que par trois fois il a tiré sur avec son revolver il a tiré sur trois soldats allemands qui étaient devant lui et qui s'enfuyaient et qu'il les a abattus. Et c'est lui qui, dans un premier temps, avait supprimé cet épisode. Il les a rétablis dans des éditions ultérieures.
Il a eu cette honnêteté-là aussi.
Absolument. Ouais. Mais malgré tout, cet incident est tout à fait intéressant. À la guerre, on tue l'adversaire. En fait, les soldats avaient souvent le sentiment qu'on ne les tuait pas n'importe comment.
Oui.
C'est-à-dire que, comme il le dit lui-même, là, il a eu le sentiment d'être un assassin, en
voilà,
quelque sorte.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et j'ai rencontré d'autres exemples. Un récit de guerre d'un homme, d'un douanier, hein, qui tirait bien, c'était chasseur également. Un jour, Il voit dans le lointain un soldat allemand qui se livrait à quelques corvées, hein, et il épaule son fusil, et puis au moment de tirer, il ne tire pas. Il ne tire pas et il dit « je ne suis pas un assassin oui. ». Dans le cadre de la bataille, et puis la plupart du temps, on ne tuait pas un adversaire désigné, l'artillerie. On ne voyait pas ses résultats, si je puis dire. Également, quand toute une troupe de fantassins tirait sur l'adversaire, ils ne tiraient pas sur un adversaire particulier.
Mmh. On tire sur l'ennemi, c'est une entité...
On tire sur l'ennemi, c'est presque abstrait. On pourrait
pas
dire...
Pas tout à fait non plus, parce que...
Bien entendu. Oui. Alors... de même, on pourrait dire le combat à la baïonnette, là, on connaît son adversaire. Mmh. Mais assez curieusement, les combats à la baïonnette ont été rares.
Rares, oui. Il en parle.
Et puis,
c'est assez rare.
Il y a eu tout de même des cas où, en particulier, c'était quelquefois des troupes spéciales qui nettoyaient les tranchées au couteau. Mais d'abord, ce pas extrêmement fréquent. Et puis même des hommes qui ne l'auraient jamais fait en temps ordinaire étaient pris par le combat. Mais cette attitude de Genevois face à cet événement de guerre est tout à fait intéressante parce qu'elle nous donne tout de même l'état d'esprit de beaucoup de combattants. Mmh. On fait la guerre, mais on la fait d'une certaine façon seulement.
Oui, avec un certain respect,
tout est relatif,
Donc en fait, il y avait la censure et il y avait aussi l'autocensure. Maurice Genevois fait allusion à des soldats qui ne sont apparemment pas bien nourris, ils n'ont même pas à boire, ils se jettent dans cette eau boueuse. Ailleurs, il évoque aussi les maladies, dysenterie et autres, dues à une mauvaise alimentation dont souffraient tous les soldats. Ceci laisse apparaître un dysfonctionnement de l'organisation, ou du moins une carence. Ces propos pouvaient-ils être acceptés en 1916 par l'armée, par les...
Ce propos pouvait être accepté pour une raison très simple. Ce ne sont pas à proprement parler des dysfonctionnements, c'est les conséquences mêmes des conditions de la guerre. Alors, à propos des maladies. Il faut s'en rendre compte... des conditions dans lesquelles...
Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la boue.
Mais la boue... dans les tranchées, effectivement, la boue...
Ils vivaient dans la boue.
Au moins pendant la saison des... Enfin, quand il pleuvait. Mais la boue était l'ennemi le plus terrible des soldats. Les soldats craignaient finalement plus la boue que les balles des fusils adverses.
Oui, parce que s'ils étaient blessés qu'ils tombaient, ils pouvaient s'enliser, mourait enlisé.
C'est arrivé. D'ailleurs, en fait, c'est pourquoi le fond des tranchées, il y avait des sortes de clayettes qui faisaient que pour éviter de s'enfoncer. Mais alors, les conditions d'hygiène dans les tranchées sont simples. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'hygiène. Surtout, disons-le, dans les tranchées françaises. Il y avait un peu plus de soins dans les tranchées britanniques ou les tranchées allemandes. Mais les tranchées françaises, donc il n'y a pas long... Alors, il faut, là encore, se replacer dans l'esprit de l'époque. Le gros de l'infanterie française... C'est-à-dire ceux
oui, parce
ceux
qu'il était Maurice Genevoix était dans l'infanterie, on ne l'a pas précisé.
Était composé pour la dans très grande majorité
des paysans.
Il ne faut pas croire que les conditions d'hygiène dans les campagnes françaises à l'époque étaient alors il y avait une différence, mais enfin pas une différence comme il y en aurait une
aujourd'hui
maintenant.
Par exemple. Oui.
Alors donc l'hygiène, il n'y en a pas. Donc, ce qui explique le développement, évidemment, de certaines maladies. Alors, en ce qui concerne le ravitaillement, bien, le problème était très simple. En dehors des périodes de combat, parce qu'enfin, ce n'était que de temps en temps, là, ce que raconte Genevoix, c'est permanent parce que les troupes françaises essayent de reprendre les éparges. Mais dans les tranchées, il y avait de longues périodes où on ne faisait rien en attendant le prochain combat. Eh bien, à ce moment-là, le ravitaillement arrivait à peu près normalement. Mais aussitôt, les roulantes, comme on appelait ça, c'est-à-dire les cuisinières montées sur roues, se trouvaient à une certaine distance à l'arrière. C'était donc des hommes à pied qui apportaient le ravitaillement. Eux-mêmes pouvaient être pris sous les bombardements, pouvaient être tués. Et puis même quand ils n'étaient pas tués, leurs bidons tombaient à terre. Et tout cela arrivait dans n'importe quel état. En ce qui concerne la boisson, alors c'est encore pire. Parce que, pour prendre l'exemple de la bataille de Verdun, hein, qui n'est pas dans le cadre de Genevoix, mais enfin les choses ont toujours été un peu les mêmes, à Verdun, il a beaucoup plu. Donc, les soldats auraient dû trouver de quoi boire dans les flaques, mais non. Les flaques, c'était bien rare qu'il n'y ait pas des cadavres, etc. Donc, c'était dangereux de boire.
Même quand il pleuvait, on avait soif.
Même quand il pleuvait, beaucoup de soldats ont souffert particulièrement de la soif.
La nuit tombe, le froid devient vif. C'est l'heure où la bataille finit, les blessés qu'on n'a pas encore relevés crient leur souffrance et leur détresse. Et ces appels, ces plaintes, ces gémissements sont un supplice pour tous ceux qui les entendent, supplice cruel, surtout aux combattants, qu'une consigne rive à leur poste, qui voudraient courir vers les camarades pantelants, les penser, les réconforter, et qui ne le peuvent, et qui restent là, sans bouger, le cœur serré, les nerfs malades, tressaillant aux appels éperdus que la nuit jette vers eux sans trêve. À boire! Est-ce qu'on va me laisser mourir là, brancardier, à boire, ah, brancardier ? J'entends de mes soldats qui disent « Oui, qu'est-ce qu'ils foutent, les brancardiers ? Ils ne savent que se planquer, ces cochons-là. C'est comme les flics, on ne les voit jamais quand on a besoin d'eux. » Et devant nous, la plaine entière, engourdie d'ombre, semble gémir de toutes ces plaies qui saignent et ne sont point pansées. Des voix douces, lasses d'avoir tant crié, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'on me fasse tuer à la guerre ? C'est Maurice Genevoix, Sous Verdun, page 88, aux éditions Omnibus. C'est durant cette bataille du 22 septembre 1914, à l'endroit où se trouvait Maurice Genevoix, qu'Alain Fournier, auteur du Grand Maulne, a été tué. Et Maurice Genevoix s'est demandé si, parmi ces voix qui appelaient à l'aide pendant la nuit, il n'aurait pas entendu celle d'Alain Fournier.
Ce n'est pas une bataille à proprement parler. Ça ne se passait pas aux éparges, mais au pied des éparges, dans ce qu'on appelle la trouée de Calonne. C'est un événement assez dramatique par la façon dont il s'est déroulé. Alors, pendant très longtemps, on n'avait pas su ce qui était devenu Alain Fournier. On savait qu'il avait disparu avec les soldats de son unité, mais on ne savait pas dans quelles conditions. Et ce n'est que de façon assez récente qu'on a retrouvé les restes des soldats qu'on a pu identifier grâce aux numéros qui se trouvaient sur leur uniforme. Et il se trouve que c'était dans une zone où la guerre de mouvement n'était pas encore terminée et une patrouille commandé par un officier âgé qui en fait était mal adapté, comme beaucoup d'officiers qui n'ont jamais fait la guerre, mal adapté à cette guerre. Cette patrouille dont faisait partie le lieutenant Alain Fournier, était commandé par un capitaine, et, aperçoit des Allemands. Le chef de la patrouille, donc le capitaine, donne l'ordre de tirer. Malheureusement, il ne s'était pas rendu compte que c'était des brancardiers allemands, et donc ils ont tiré sur une ambulance allemande. La riposte a été terrible.
Il nous faut maintenant parler de Norton Crewe, qui a publié en 1929 un ouvrage très important intitulé « Témoins ». Il a collecté, après avoir défini certains critères, tous les écrits parus sur la Grande Guerre. Cet ouvrage a été réédité aux Presses universitaires de Nancy en 1993. On peut y lire ceci. Genevoix n'a pas écrit contre la guerre de longues malédictions, mais ses 5 volumes abondent en petites phrases qui ne laissent aucun doute sur ses sentiments.
Alors, en ce qui concerne Norton Crewe, Norton Crewe est quelqu'un qui a fait la guerre pendant 3 ans. Il était français, mais de mère anglaise, et il a fait pratiquement toute une grande partie de sa carrière aux États-Unis. Il était parfaitement bilingue. Et il estimait qu'il pouvait donc voir dans tous les récits de guerre ce qui était vrai, ce qui n'était pas, etc. Il a fait une œuvre immense. Mais Norton Crewe était, comment dirais-je, alors, à titre personnel, était pacifiste. Mais il n'a pas confiance dans les récits des pacifistes. Par exemple, il considère, à tort, parmi les écrivains qu'il dénonce comme de faux écrivains de la guerre, Henri Barbusse. Il a une haine littéralement contre Barbusse. En revanche, il adore...
Il a une très très grande admiration pour Genevoix.
Une très grande admiration pour Genevoix. Alors, quand il dit qu'il voit dans Genevoix une série de remarques, au fond, qui lui paraissent pacifistes, eh bien, je crois que ce n'est pas exact. Le problème de Genevoix, comme le problème de la plupart des combattants, c'était des civils qui faisaient la guerre sans aimer faire la guerre. Ils estimaient que c'était leur devoir. Mais il n'empêche qu'il n'aimait pas. Et vous trouvez peu de récits de guerre où on voit des gens qui aiment la guerre. D'ailleurs, t'as dit, c'était une guerre que la gloire, tout cela, il y en avait guère hein, dans la Grande Guerre. Mais alors, les gens, je crois que pour comprendre Genevoix, et pour comprendre son œuvre, tout ça se résume en quelque sorte dans une seule phrase. Ce que nous avons fait, dit-il, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait. Hein? Il n'aime pas la guerre, mais il estime, et comme la plupart des combattants, la grande majorité des combattants.
Et puis Maurice Genevoix a un grand respect pour la hiérarchie, pour c'est un homme de devoir qui
est... Oui, mais je crois que c'est vrai de la très grande majorité des combattants. Ils passent pas leur temps à crier « Vive la France », bien sûr.
Oui.
Ils savent pourquoi ils sont là. Par exemple, André Pézard, auquel je faisais allusion tout à l'heure, ne parle jamais de cela, sauf une fois, en disant, en gros, ils sont là pour le pays. Hein? Une fois, il le dit. C'est pas son... on retrouve la même idée, que les mêmes idées que chez Genevoix.
Le fait que Maurice Genevoix soit chef de section lui permet d'être avec les soldats, mais aussi d'avoir un léger recul. La juste distance, peut-être, qui lui a permis de décrire cette situation de guerre.
En réalité, Genevoix est un jeune intellectuel. et un jeune intellectuel qui se trouve au milieu de soldats qui, eux, ne sont pas des intellectuels. Mais il faut penser que des gens comme Genevoix et comme ce qu'on appelle les officiers de troupe, c'est-à-dire sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, au-delà, il y avait des colonels, il y avait déjà plus de distance avec le lieu même du combat. Hein. Tandis que ces officiers de troupes sont vraiment dans le combat. Ils ont les mêmes conditions de vie, hein, à peu près, que les simples soldats. Il y a donc, quand il y a un certain sens de l'humanité chez ces jeunes officiers, eh bien, un contact très proche avec leurs soldats, avec leurs hommes, comme on disait, avec les combattants.
Je vous remercie, Jean-Jacques Becker. Je conseille à toutes et à tous, étudiants en histoire ou en lettres, aux curieux d'histoire ou aux amateurs de littérature, la lecture de ce volume de Maurice Genevoix, ceux de 14, que vous avez préfacé. Vous-même, Jean-Jacques Becker, vous avez dirigé avec Stéphane Audouin-Rouzeau l'Encyclopédie de la Grande Guerre aux éditions Bayard en 2004. Vous avez également dirigé avec Gilles Candard Histoire des gauches en France aux éditions La Découverte en 2004. Vous avez édité l'année 14 chez Armand Collin en 2004, La Grande Guerre aux Presses universitaires de France en 2004 et en 2005, La France de 1914 à 1940 et en 2006, Le Pape et la Grande Guerre aux éditions Bayard. C'est le jour. Une taie de blême clarté coule à la surface du sol, le modèle barbarement par-dessus des formes humaines, des débris et des saletés. Chabot, la lèvre pendante, la face dure et décolorée, regarde sa jambe morte qui traîne à côté de lui. Jean ne peut même plus tousser. Il tourne tout doucement la tête, à droite, à gauche, la bouche auréolée de sang. Et Bilorail, si réduit avec sa tête penchante, son mince visage qui ne saigne plus, le nez noir de sang coagulé. À l'une des blessures de Chantoiseau, au moignon de son pouce coupé, je reconnais encore cette contraction de la chair pâle, cet affreux spasme rythmique et profond. Petit Bru, épuisé de cris, semble dormir la bouche ouverte. Et ceux qui vivent, sénéchal grelottant, Carichon morne et boulé sur lui-même, Poutman apparut tout à coup les joues charbonnées de poils noirs, les traits noués d'un rictus immobile. Et là-bas, Mémas décapité, Libron décapité, Reynaud tombé à plat ventre, la tête en bas, un éclat fiché dans le crâne, luisant et net comme un coin de bûcheron. Et toujours les mêmes flaques jaunes, les mêmes épaves innommables, les mêmes souillures, la même misère poisseuse, tachée de boue, rongée de boue. Et la pluie qui ruisselle là-dessus, et les obus qui tombent toujours avec les mêmes sifflements, les mêmes chuintements, les mêmes explosions, les mêmes colonnes de fumée sombre, et les shrapnels qui tintent là-bas, qui poursuivent depuis 5 jours le long des routes qui s'éloignent, les groupes chancelants des blessés. C'est beau tout ça. Oh, c'est du propre. Maurice Genevoix, Les Éparges. À bientôt donc pour la suite de notre voyage dans l'œuvre complexe de Maurice Genevoix.